en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La paléopathologie osseuse n'aura plus de secret pour vous grâce à la pédagogie et l'engouement d'Henri Dudet. Intervenant de la conférence consacrée à la paléoanthropologie osseuse qui avait lieu à l'Institut de paléontologie humaine en juin 2009, Henri Dudet est paléoanthropologiste et spécialiste de l'archéologie funéraire. Fort de plusieurs exemples à Bonifacio en Corse, en Irak ou encore à Ravenne en Italie, Henri Dudet nous fait part de ses véritables enquêtes ou comment, en partant d'ossements de l'époque préhistorique, on arrive à reconstituer les conditions de vie de l'ensemble d'une communauté. On écoute Henri Dudet.
Je vais vous parler de pathologie osseuse, de paléopathologie, mais plus précisément de la manière dont nous pouvons aborder la question de la pathologie dans les populations anciennes et évidemment à partir des restes humains. Dans les populations anciennes, on peut faire de la paléopathologie parce qu'on a des représentations de sujets malades, de sujets anormaux, parce qu'on a des écrits pour l'Égypte ancienne, par exemple, pour la Grèce, pour Rome, parce qu'on a des écrits relatifs à la maladie, au traitement. Là, je vais vous parler évidemment de l'approche à partir des restes humains qui sont exhumés au moment des fouilles. Et je vais essayer de situer cette analyse dans la perspective de mon propre champ de recherche, c'est-à-dire que je suis à la fois un paléoanthropologue et un spécialiste d'archéologie funéraire, c'est-à-dire que mon métier est de fouiller des sépultures, d'exhumer et d'essayer, autant que faire se peut, de comprendre à la fois les gestes funéraires et puis d'obtenir des informations sur les individus dont nous trouvons les restes. Et c'est là que se situe évidemment la vision de la paléopathologie. Alors, la paléopathologie, c'est évidemment une affaire de médecin. Ça paraît tout à fait logique. Il faut une compétence médicale. Mais c'est une discipline qui a assez mal fonctionné pendant longtemps pour une raison très simple. C'est que les archéologues fouillaient des sépultures, trouver éventuellement des os qui leur paraissaient anormaux. Si un anthropologue intervenait ensuite pour étudier les os, il isolait lui aussi des os qui lui semblaient anormaux. Et ces os étaient ensuite confiés à un médecin qui, dans son laboratoire de la faculté de médecine, développait le discours de sa propre discipline, mais sans évidemment avoir conscience de tout ce qui pouvait se passer en amont et de tous les biais qui pouvaient éventuellement constituer des pièges au diagnostic ou à l'évaluation, par exemple, de la fréquence de telle ou telle maladie dans telle population. Donc, la paléopathologie, c'est une affaire de médecin, c'est une discipline qui nécessite évidemment une collaboration régulière avec des spécialistes de tous les champs de la médecine. Et on le verra notamment de l'imagerie, il y a eu des progrès gigantesques faits dans cette voie. Mais il faut bien avoir conscience que le fouilleur a une responsabilité extrêmement lourde dans les conditions du diagnostic. Et je vous en montrerai quelques exemples. Et puis évidemment, en tant qu'historien, au sens large, préhistorien, historien, etc., si nous nous penchons sur ce qu'étaient les conditions de vie des populations anciennes, nous devons normalement intégrer la place de la maladie, les causes de la mort, etc. Et vous le verrez éventuellement, les informations qui touchent au statut des handicapés dans les populations anciennes, etc. On va voir des exemples de ce type. La paléopathologie, c'est donc une curiosité médicale, mais ce n'est pas seulement cela. Pendant longtemps, les paléopathologistes se lancer dans une espèce de compétition à qui aurait le cas le plus monstrueux, la fracture la plus grosse, la lésion la plus évoluée, etc. C'est évidemment intéressant. Il y a la connaissance sur l'histoire des maladies, mais il y a évidemment toute cette dimension sociale de la maladie que nous devons intégrer dans notre perception des sociétés anciennes. Alors, quand vous voulez vous pencher sur cette enquête paléopathologique, eh bien, le premier facteur déterminant, c'est évidemment le traitement funéraire qu'a subi l'individu. Vous imaginez bien que s'il y a des populations qui jetaient leurs défunts dans la mer, nous sommes définitivement incapables de savoir quelles étaient leurs maladies. Il y a là un biais évident. Le cas le plus favorable, ce sont évidemment les sépultures. Vous voyez ici une sépulture mésolithique que nous avons fouillée en Corse, qui a à peu près 9000 ans, à Bonifacio. Eh bien, là, vous avez le squelette d'une femme adulte, relativement âgée. Et vous pouvez étudier les diverses lésions que présente cet individu. Vous pouvez raisonner à l'échelle de la pathologie. Vous pouvez faire le bilan pathologique de l'individu, puisque vous avez son squelette complet. Et si vous avez un certain nombre de squelettes relevant du même groupe, vous allez pouvoir vous lancer dans des appréciations de fréquence. L'analyse montre, la fouille minutieuse montre la position de l'individu. Et à la fouille, j'ai été frappé parce que la main gauche de cette dame était dans une position très particulière. Alors évidemment, ce n'est pas sa main, puisque sa main, je ne l'ai vue qu'à l'état de squelette. Et en plus, comme elle était redressée dans le sol, dans cette position, à la fouille, vous comprenez qu'on rencontre d'abord les deux premières phalanges, puis des phalanges au-dessous, etc. C'est dans le sable, et donc il faut faire a posteriori une restitution dans l'espace, et ça m'a permis d'établir que la main était dans cette position. Merci beaucoup. Dea ex machina. Et ça, c'est une chose qui m'a frappé parce que cette position, c'est la position que prend spontanément la main quand il existe une paralysie d'un des nerfs moteurs de la main qu'on appelle le nerf cubital ou aujourd'hui le nerf ulnaire. Alors, la main est comme ça. Mais après tout, il faut bien qu'elle ait la main dans une position au moment de l'inhumation. Seulement, il se trouve que vous avez ici son cubitus ou ulna gauche qui est tout à fait normal, mais qui, à ce niveau, présente un petit renflement. Et de profil, c'est plus évident. Vous voyez qu'il y a un petit renflement très lisse, bien décalé. Et sur la radio, il ne fait aucun doute que c'est une fracture ancienne, parfaitement consolidée. Donc, une fracture très antérieure au décès. Or, on sait en pathologie actuelle que la fracture distale du cubitus est une des causes fréquentes de paralysie ulnaire, parce que tout simplement, le nerf chemine au contact direct de l'os, et quand vous avez un élément dur qui vient percuter l'os, ou quand l'os tape contre quelque chose de dur, comme contre une arête dure, le nerf se trouve pris entre le marteau et l'enclume, et peut-être écrasé ou sectionné. Alors, ce n'est pas tout. Ça, ce sont ces troisièmes métacarpiens. Le troisième métacarpien, c'est l'os qui est dans la paume de la main, en amont du médius. Vous avez le droit et le gauche, ce sont des radiographies. Le droit est normal et vous voyez que le gauche a un petit renflement au milieu. En fait, c'est beaucoup plus visible de profil, où on voit que le gauche a cette zone un peu floue et vous voyez que le gauche est plus incurvé. Il est anormalement arqué. Et ça prouve aussi qu'il y a eu une fracture ancienne, parfaitement consolidée, comme la fracture du cubitus, une fracture ancienne du troisième métacarpien. Donc, deux traumatismes, soit des traumatismes différents, soit le même traumatisme, puisqu'on est dans la même région de l'organisme. Ça, ce sont les cinquièmes métacarpiens, donc les os qui sont en amont du petit doigt. Eh bien, si je vous dis que le droit est normal, vous comprenez tout de suite que le gauche ne l'est pas. Vous voyez qu'il est très déformé, élargi, raccourci, avec une surface très irrégulière. Et de part et d'autre de la tête, c'est-à-dire la partie qui s'articule avec la phalange, vous avez deux expansions osseuses. Et si je me mets à la place de la phalange, vous avez le droit qui est normal, et vous voyez ces expansions osseuses qui sont les ossifications des ligaments qui unissent la phalange à la tête du métacarpien. Or, on sait que dans la paralysie ulnaire, dans la griffe ulnaire, dans un premier temps, la griffe est passivement réductible, c'est-à-dire que le sujet ne peut pas commander l'ouverture de ses deux derniers doigts, mais avec son autre main, ou le clinicien qui l'examine, peut ouvrir. Secondairement, ça se rétracte, ça s'ankylose, on dit que la griffe est irréductible. Et là, le fait que les ligaments soient en train de se souder est la démonstration du fait que la griffe est en train de passer au stade irréductible. Voici les radios, et on voit que le cinquième métacarpien a été complètement broyé, complètement écrasé, et sur toute sa longueur, pratiquement, c'est un cal. Il y a même un petit os qui est normalement mobile dans les tendons des muscles fléchisseurs des doigts, ce qu'on appelle un sésamoïde, bon, c'est une petite pastille osseuse, qui a été englobée dans le cal, et ça prouve à l'évidence que la griffe était complètement bloquée. Alors vous voyez, petit à petit, on chemine vers le diagnostic. En fait, je vous montre un appareil avec une certaine émotion, parce que ça appartient à la préhistoire de la médecine. À l'époque, je travaillais au laboratoire de biophysique de la faculté de médecine de Montpellier, et on expérimentait un appareil qui mesurait directement la charge minérale de l'os par unité de section. Ça a été totalement abandonné parce que depuis, le scanner est apparu. Évidemment, aujourd'hui, on fait ça avec un scanner. Mais à l'époque, il n'était pas question de scanner et ça fonctionnait. Et effectivement, si vous comparez les métacarpiens, vous avez la main droite en rouge, le premier métacarpien gauche est moins minéralisé que le droit, le deuxième gauche moins que le droit, etc. Et c'est seulement au niveau du cinquième doigt, parce que l'os est écrasé et qu'on a la surcharge de matière osseuse par le calque, qu'on a une égalisation. Et de même, au milieu de la diaphyse, on a exactement la même chose. On voit même que le gauche est plus minéralisé. Et pour le troisième, rappelez-vous, il y avait une fracture au milieu de la diaphyse. Vous avez une surcharge minérale, mais sinon, globalement, la main gauche est déminéralisée par rapport à la droite. Autrement dit, on a tout un faisceau d'arguments convergents. On ne peut pas faire l'examen clinique de cette femme, mais on a tout un faisceau d'arguments convergents qui nous permettent de dire que cette femme a très probablement souffert pendant une période assez longue entre le traumatisme et sa mort, et on a vu que la cicatrisation était parfaite, a souffert d'un handicap de paralysie ulnaire. Vous me direz, c'est pas terrible, ça, bon, ça n'empêche pas de vivre, hein, certainement. Mais enfin, vous allez voir que cette malheureuse avait quand même pas mal de choses. Alors, un état dentaire épouvantable, vous voyez un énorme kyste à la racine de l'incisive centrale supérieure gauche, des dépôts de tartre gigantesques. À l'étage vertébral, des choses qui sont parfois asymptomatiques, il faut dire, qui sont des hernies discales, mais vous avez tous entendu parler de hernies discales, mais là, ce sont des hernies intraspongieuses, c'est-à-dire des hernies qui se font vers l'intérieur des corps vertébraux. Cette femme avait aussi les séquelles d'un traumatisme à la cheville droite, avec un ostéome post-traumatique. Elle avait une arthrite interphalangienne du gros orteil. Là, ça commence à faire pas mal. Enfin, si, ça fait mal, au contraire, pardon. Et puis, au niveau de lorsqu'on appelle aujourd'hui calcaneus, on disait calcaneum, la nomenclature internationale nous demande de dire calcaneus aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Eh bien, dans la zone d'insertion du tendon d'Achille, on a des remaniements importants qui sont liés, en fait, à l'inflammation d'une bourse de glissement, de quelque chose qui permet le glissement du tendon d'Achille sur l'os. Je pense que certains d'entre vous connaissent le désagrément d'avoir des chaussures neuves à contrefort trop rigides. Mais ça, c'est beaucoup plus douloureux parce que ce que cette femme a eu, parce que ce n'est pas entre le tendon d'Achille et la peau, c'est entre le tendon d'Achille et l'os qui se trouve en avant. Et en fait, on voit qu'il y a effectivement une lésion très étendue, puisque l'hypervascularisation, vous voyez tous ces trous vasculaires, des lésions beaucoup plus étendues. Ça se retrouve d'ailleurs sur les radiographies avec cet aspect complètement floconneux de l'os qui montre les remaniements internes. Et ça, c'est quelque chose qui entrave considérablement la marche. Alors vous voyez, petit à petit, on l'habille. Et si on fait un bilan, eh bien, vous en faites évidemment une handicapée relativement sévère, surtout que c'était des gens qui étaient des prédateurs, si vous voulez, pas des producteurs. Ils traquaient le Prolagus sardus, une espèce de petit lapin. Ils ramassaient des coquillages dans les rochers, etc. Et cette femme avait énormément de peine à se mouvoir en milieu escarpé. Et forcément, ça nous renseigne sur une chose tout à fait extraordinaire, c'est l'assistance au sujet handicapé à l'intérieur des groupes préhistoriques. Pour les temps historiques, nous avons des textes, mais pour les périodes anciennes, ce sont des choses très étonnantes. Donc, il y a une forme de prise en charge. Vous direz, peut-être c'est un échange de compétences. Vous pouvez imaginer, par exemple, que cette femme connaissait très bien les plantes médicinales, je l'espère pour elle, mais vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais il y a au moins une forme de relation qui permet à un sujet de bénéficier de l'apport de nourriture alors qu'il n'est plus directement productif par rapport à cela. Jean d'Astugues, qui a été professeur à Caen, qui a été en France l'un des pères de la paléopathologie, a fait connaître le cas d'un squelette du néolithique ancien en Afrique du Nord, à Kolumnata, où on a une femme qui, à la suite d'un traumatisme, a eu une fracture du bassin, un écrasement du sacrum avec une fermeture donc d'orifices qui servent à la sortie des nerfs. Et donc, on sait que cette femme était grabataire, qu'elle ne marchait plus et qu'elle était incontinente. Et elle a survécu, ses lésions sont complètement cicatrisées. Et dans une population préhistorique, l'assistance à une grabataire incontinente, c'est évidemment quand même quelque chose, dans notre société on connaît ça bien entendu, mais c'est vrai que c'est une autre façon d'approcher ce qu'était la réalité de la vie dans les populations anciennes. Et quand vous imaginez que Eric Trinkaus a fait connaître le cas d'un polytraumatisé néandertalien en Irak, c'est l'époque, Eric Trinkaus est un professeur américain, c'est l'époque où les Américains allaient en Irak pour autre chose que ce dont vous avez entendu parler, eh bien, Eric Trinkaus a montré qu'il y a un néandertalien polytraumatisé et pendant la cicatrisation de ses fractures, pendant la consolidation de ses fractures, nécessairement, il a dû être assisté. Et par rapport à l'idée que l'on se fait parfois de brutalité, je dirais presque de bestialité de ce type humain, ben c'est pas anodin de dire que quelqu'un de grabataire, transitoirement, mais quelqu'un de grabataire, a pu être maintenu en vie, assisté par le groupe, suffisamment longtemps pour arriver à la guérison. Alors, on a toutes sortes de choses. Là, vous avez, c'est moins étonnant, mais sur un squelette médiéval de Gironde, vous avez une luxation de la hanche, la tête fémorale est sortie de la cavité articulaire, elle a basculé, et le sujet boitait considérablement, puisque vous avez un raccourcissement considérable du membre. La tête du fémur est allée se placer sous un muscle qui s'appelle le psoas iliaque, qui passe ici. Et cette femme a marché. Elle a tellement marché qu'elle s'est fabriquée une nouvelle cavité articulaire. Elle s'est remodelée. Donc, vous avez là une information à la fois sur quelqu'un qui était très handicapé, qui a survécu dans le groupe, mais vous avez donc des informations sur le groupe vis-à-vis du handicapé et la personne handicapée vis-à-vis de son propre handicap. Il y a une véritable, vous voyez, un remodelage d'une nouvelle surface articulaire. Là, vous avez un sujet du néolithique ancien que nous avons fouillé il n'y a pas très longtemps en arrière de Menton, dans les Alpes, donc tout près de la frontière italienne. Eh bien, c'est un sujet qui est en position contractée. Si vous regardez ses membres inférieurs, c'est absolument ahurissant. Vous avez ici une double fracture du fémur cicatrisée. Avec... Il a un fémur Louis XV, si vous voulez. Bon, vraiment, enfin, il est vraiment comme ça, on dirait un pied de meuble Louis XV. Bon, ça s'est refracturé dans le sol, mais sinon, on a une cicatrisation satisfaisante, même s'il y a des grosses déformations. Alors, je me disais, raccourcissement très important, il a dû boiter. Or, pas de véritable pathologie dégénérative au niveau de la colonne lombaire. Et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ici, probablement dans le même accident, ce sujet s'est fait une gigantesque fracture du fémur gauche avec un décalage de 9,5 cm entre les deux morceaux et ça s'est pratiquement reconsolidé en baïonnette. Simplement, le cal n'a pas été suffisamment solide et quand le sujet a été remis en charge, en fait, ça a joué à l'intérieur. Il y a une petite cavité qui s'est faite, c'est-à-dire qu'il avait deux genoux superposés. Quand il prenait appui, le fémur se pliait un petit peu. Vous imaginez les conditions de la marche. C'était évidemment quelqu'un de très handicapé. Alors, des radios absolument spectaculaires. Enfin, je dirais, c'est absolument monstrueux quand vous voyez ça. Mais ce qui est très intéressant, en dehors du cas, c'est que, effectivement, cet individu, pour consolider la double fracture de fémur droit, mais il faut des mois d'immobilisation totale. Immobilisation totale, donc il se souille, il faut l'alimenter, etc. Un entretien d'un grand infirme, au moins pendant certains temps. Et vous voyez là que nous avons effectivement des choses qui nous mettent en prise directe avec la société, avec les sociétés préhistorique. Ce n'est pas simplement de la curiosité médicale. Pour moi, ça, c'est aussi important que de savoir comment ils taillent leur silex ou comment ils décorent leur poterie, puisque là, on est au néolithique. Je ne dis pas que la taille du silex ou la décoration de la poterie ne sont pas intéressantes, loin de là, mais ça aussi, pour moi, c'est dans le champ du culturel, c'est dans le champ de la restitution de ce qu'était la vie des populations passées. On a aussi les arthroses, dont vous entendrez parler par la suite. Et là, vous avez un cas d'arthrose médiévale incroyablement évolué, c'est-à-dire que le cartilage, c'est une arthrose fémoro-patellaire, donc entre le fémur et la patella ou rotule. Eh bien, le cartilage avait complètement disparu, et comme le fémur est une articulation unidirectionnelle, qui ne fonctionne qu'en flexion-extension, en fait, les os se sont rabotés, et vous voyez, on dirait que c'est travaillé autour. Et alors, évidemment, l'érosion met à nu l'os spongieux qui est en profondeur, mais l'organisme réagit en refabriquant de l'os, et vous avez cette espèce de polissage, ce qu'on appelle l'éburnation, c'est-à-dire que ça prend l'aspect de l'ivoire, ça frotte os contre os et ça se polie. Ben ça, ça vous dit que c'est un sujet qui a une arthrose extrêmement évoluée, et que malgré ça, eh ben, l'individu a entretenu la fonction. Ah, ça, ça devait grincer, hein, ça devait... Mais... Donc, on a des renseignements de cet ordre. Autre cas, les sépultures collectives néolithiques. Eh bien, dans les sépultures collectives néolithiques, là, tous les os sont mélangés. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus raisonner individu par individu. Vous dites, ah, cet os, tiens, il est bizarre. Et vous pouvez dire, j'ai tant de lésions de ce type sur tant de tibias, tant de lésions sur tant de fémurs, etc. Mais vous ne pouvez plus, dans la plupart des cas, associer une fracture de radius avec une fracture de tibia ou de métatarsien. Vous ne savez pas si ça appartient au même sujet. Sauf dans quelques cas, quand nous avons des maladies de système. Nous ne pouvons plus travailler sujet par sujet. Mais dans cette série, il a été possible, donc on est à peu près 3500 avant Jésus-Christ, cette image très... C'est une espèce de bosse très... comme de la mousse qui a poussé à l'extérieur du frontal. À l'intérieur du pariétal, vous avez aussi ces lésions poreuses, cette espèce de mousse qui pousse. Sur la diaphyse du fémur, même chose, même lésion. Sur les vertèbres, pareil. Vous avez la colonne cervicale, la colonne lombaire. Il s'agit de radiographie avec des densifications, des tassements de corps vertébraux. Il y a des lésions tout à fait caractéristiques. On peut faire de l'anatomie pathologique, on peut faire des coupes pour travailler exactement dans les conditions de diagnostic des médecins actuels. Là, malheureusement, je crois que ça ne passe pas très bien, mais cet aspect de l'os avec ses lamelles, ses fibres comme ça est tout à fait évocateur d'une maladie du squelette qui s'appelle la maladie de Paget. Et là, on aborde autre chose, l'histoire des maladies. Mais la maladie de Paget, aujourd'hui, c'est une maladie, c'est pas pour rien qu'elle a été décrite par Sir Paget, c'est en Grande-Bretagne. C'est une maladie qui est infiniment plus fréquente en Grande-Bretagne que sur le continent. Mais le docteur Jean-Pierre Arnautou, qui a fait une thèse d'anthropologie, qui est un rhumatologue maintenant à la retraite, en fait, a étudié. Vous avez le cas que je vous ai présenté de cette grotte, qui est actuellement le plus ancien connu. Bon, ça ne veut rien dire, on n'a pas de record, on en trouvera d'autres. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que tous les cas préhistoriques, c'est-à-dire néolithiques et proto-historiques, avant l'époque romaine, se trouvent sur le continent. C'est seulement après la conquête romaine qu'on voit apparaître des squelettes pagétiques en Grande-Bretagne, dans les îles. Donc là, pour comprendre l'épidémiologie des maladies, pour comprendre la manière dont les maladies se sont développées, se sont propagées à l'intérieur des populations, il est évident que cette recherche revêt un intérêt tout à fait particulier. Alors, aussi, les connaissances des populations anciennes. Dans cette série, qui a quand même 5500 ans, vous avez là un numérus qui est tout à fait anormal. Il est très court, il mesure 208 mm, moins de 21 cm. Or, un adulte de 1,40 m, vous m'accorderez que 1,40 m, ce n'est pas très grand, un adulte de 1,40 m a en moyenne un numérus de 24 cm de long. Conclusion, ou c'est un nain, ou c'est un sujet qui avait une atrophie d'un segment de membre. En fait, on n'a pas trouvé d'autres os présentant de telles anomalies, et il est tout à fait clair, on le sait, qu'il a une morphologie très particulière qui est probablement liée à une destruction du cartilage de croissance proximal au niveau de la tête humérale. Eh bien, si vous regardez son extrémité inférieure, rien de particulier quand vous la voyez par derrière, mais quand vous la voyez sur sa vue antérieure, vous réalisez qu'il a été découpé au silex. En fait, il a été disséqué. Section du tendon du biceps, etc. Il y a eu... Alors, on pourrait dire, mais c'est de l'anthropophagie ou ce sont des rites funéraires avec des charnements. Le problème, c'est que sur 12 000 os, on a un os qui présente ces traces. Et c'est justement celui qui avait l'anomalie la plus visible dans la morphologie extérieure de l'individu. Donc, pour moi, il est beaucoup plus probable qu'en fait, il s'agit d'une autopsie, qu'il s'agit d'un contrôle anatomique. Alors, ça peut vous paraître étrange, mais n'oubliez pas que ces populations sont capables de trépaner les individus et on a de véritables écoles. Regardez ce crâne trouvé dans l'Aveyron, deux gigantesques trépanations, et là, ce sont des vraies trépanations, ce n'est pas... une affection dite amincissement bipariétal, de gigantesques trépanations cicatrisées. Et Jean d'Astugues, toujours lui, pour le bassin parisien, a fait connaître un crâne des allées couvertes de la Marne, un crâne néolithique, où manifestement le praticien commence sa trépanation avec le raclage tangentiel au silex, et puis manifestement ça se passe mal, le patient décède. Et là, on voit que le chirurgien change d'outil, il prend un burin, et à l'ouvre-boîte, il décalote complètement le crâne, probablement, pour comprendre ce qui s'était passé. N'oubliez pas que ces gens-là ont déjà sélectionné les hybrides de blé, vont découvrir la métallurgie, etc. La curiosité médicale n'est certainement pas quelque chose d'inattendu dans ces populations. Et je terminerai en évoquant des conditions de diagnostic qui sont effectivement beaucoup plus délicates. C'est lorsque les sujets ont été brûlés. Vous savez très bien qu'il y a des populations qui incinèrent leurs morts. C'est le cas du monde romain, en partie, même chez nous avant, à l'époque gauloise. On a même des crémations dans la préhistoire, en tout cas bien attestées chez nous à partir du Mésolithique, c'est-à-dire il y a plus de 10 000 ans. Les premières crémations chez nous, sur le territoire national, sont attestées il y a environ 10 000 ans. Donc, vous le voyez. Bon, eh bien là, vous avez par exemple une urne cinéraire avec son contenu. Vous ouvrez le couvercle. Bon, ça, c'est à Ravenne. C'est une fouille que nous faisons à Ravenne, donc à Classe, qui est le port romain, le premier port romain militaire fondé par Auguste, le plus important de l'Empire romain. On a les nécropoles. Ben, vous avez l'urne qui était protégée par une amphore. Vous avez l'urne. Quand vous enlevez le couvercle, vous regardez, et là, c'était tellement hermétique, vous pouvez dire bonjour monsieur ou bonjour madame, puisque le mort est à l'intérieur. Là, encore, les os sont fragmentés, mais pas trop déformés par la crémation. Dans le sud de la France, on a des crémations extrêmement nombreuses, extrêmement intenses et très poussées, avec une fragmentation très poussée au début de l'âge du fer, à la fin de l'âge du bronze, au début de l'âge du fer, c'est-à-dire dans la première moitié du premier millénaire avant notre ère. Ben, vous vous doutez bien que les conditions de diagnostic là-dessus ne seront pas les mêmes que sur le squelette de Bonifacio que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut quand même essayer de chercher, il y a des biais, on trouve beaucoup moins de choses. Il n'empêche que, bon, par exemple, on travaille aussi sur un site que vous connaissez peut-être, ça s'appelle Pompéi, je suppose que vous en avez entendu parler. Eh bien, ce que je disais, c'est que la plupart des anthropologues qui ont travaillé à Pompéi, en fait, ont étudié les morts de l'éruption. Nous travaillons sur les tombes antérieures à l'éruption. Évidemment, les gens qui habitaient la ville mouraient et ils recevaient un traitement funéraire, ils étaient brûlés. Donc, nous fouillons ces nécropoles. Alors là, vous avez les tombeaux qui ont été scellés par les cendres de l'éruption. Là, c'est l'enclos sur lequel nous travaillons. Eh bien, dans une des tombes, par exemple, on trouve beaucoup de petits fragments. Et ce que vous avez là, c'est en fait le col d'un fémur gauche, avec une partie, pour ceux qui ont une formation médicale, qui s'appelle le grand trochanter, qui est une insertion du muscle que j'évoquais tout à l'heure, le psoas iliac. Je l'ai mise sous certaines vues, et on voit que sur le col fémoral, eh bien, il s'était développé une espèce de bulle soufflée, avec du tissu osseux à l'intérieur, et c'est une tumeur. Or, c'est un homme adulte jeune, et il n'est pas impossible, ça n'est pas encore parfaitement confirmé, il n'est pas impossible qu'on ait là un ostéosarcome, c'est-à-dire une tumeur qui pourrait être la cause du décès de l'individu. Donc vous voyez que malgré la fragmentation, on peut parfois proposer des diagnostics sur des anomalies qu'on repère, sur des petits fragments osseux brûlés. Et ça, eh bien, évidemment, ça amène à se demander de quoi les gens sont morts. Pour la dame de Bonifacio, la première hypothèse, c'est qu'elle a eu une grande fracture du crâne. En effet, vous voyez qu'il y a un grand fracas ici. J'ai pu prouver, en analysant une pellicule qui s'était formée à l'intérieur du crâne, en faisant une diffraction de rayon X, qu'en fait, pendant longtemps dans le sol, le crâne s'est comporté comme une géode, c'est-à-dire que le crâne était vide, l'eau chargée de carbonate de calcium, puisque les sédiments sont calcaires, l'eau de pluie qui traverse les couches accumulées au-dessus, a dissous du carbonate de calcium, l'eau ensuite a percolé au travers de la paroi crânienne, et à l'intérieur du crâne, vous avez eu un phénomène d'évaporation qui a libéré une pellicule de calcite. Ça prouve qu'il n'y a pas de maladie qui produise de la calcite à l'intérieur des crânes. Donc, c'est un phénomène post-dépositionnel, et on sait que le crâne s'est cassé après. En revanche, il est tout à fait possible qu'on ait la cause de la mort, parce que vous voyez qu'il manque sa première molaire inférieure droite, et si vous regardez, il y a là un gigantesque abcès. En fait, c'est une ostéite. La dent, on l'a trouvée, fracturée, et on a pu prouver, quand on remet la dent en place, on se rend compte qu'elle devait baigner complètement dans le pus, parce que les racines n'ont plus aucun contact avec l'os. Ça s'appelle un séquestre en médecine, et normalement, ça s'évacue rapidement. Ça veut donc dire que cette lésion était évolutive au moment où la femme est morte. Or, on sait qu'avant l'antibiothérapie, les grandes infections buccales pouvaient être des causes de décès, parce qu'il y a des communications vasculaires entre la face et l'endocrâne. Alors évidemment, si vous avez un lâcher de bactéries qui passe à l'endocrâne, alors là, l'ostéite mandibulaire ou l'abcès dentaire se transforme en méningite ou encéphalite. Et le pronostic n'est pas le même, évidemment. Et simplement, pour terminer, donc c'est une cause possible de la mort, elle n'est pas certaine, mais pour terminer, les seuls cas où on soit, je dirais, pratiquement certain de la cause de la mort, c'est lorsque les gens, là vous avez des néolithiques qui ont été fouillés en Vendée, vous avez un dépôt simultané de deux individus, en fait il y a trois fois deux individus, eh bien, si vous regardez ce sujet, d'abord ils ont les crânes complètement fracassés, ils ont pris des coups sur la tête extrêmement nombreux. Et puis, ici, vous avez la colonne lombaire, et quand on voit la quatrième lombaire ici, ce qui est planté, c'est une armature de flèche en silex, et à la face antérolatérale gauche de la quatrième vertèbre lombaire, et là, c'est le niveau de la bifurcation de l'aorte abdominale qui donne les artères iliaques. Et là, je vous garantis que même aujourd'hui, on ne survit pas, alors vous me direz, c'est rare qu'on reçoive une flèche en silex aujourd'hui, mais enfin, on ne survit pas à une effraction brutale de l'aorte abdominale, c'est une hémorragie cataclysmique. Et effectivement, il n'y a pas de cicatrisation, vous le voyez bien. Alors en fait, ils se sont bien acharnés, parce que ce sujet qui mesure à peu près 1,90 m, il est absolument gigantesque, a en réalité reçu un gigantesque coup de massue sur la face, qui lui a complètement explosé le menton. Les incisives centrales supérieures, sous l'impact, ont capoté. Vous voyez que les racines ont arraché la paroi antérieure des alvéoles et les dents sont restées là où l'individu est tombé. On ne les a pas retrouvées dans la structure. Et les dents se sont entrechoquées. Bon, on a une double fracture ici du maxillaire. Et au niveau des dents, on a un nombre très, très important d'écaillures, si vous voulez, qui sont liées au fait que, sous le choc, et ajoutez à ça qu'enfin, ils ont pris des coups sur la tête, vous en avez un autre, et ici, par exemple, ça, les médecins connaissent très bien ça, ce sont les signes de lésions par instrument contondant, vous avez tous lu ça dans les romans policiers, Vous avez une pastille de la taille d'une pièce d'un euro qui a été projetée sous l'impact du coup de massue, qui a été projetée à l'intérieur du crâne. Et à l'intérieur du crâne, on l'a trouvée et vous voyez les toilures. Alors là, oui, je peux vous dire que nous savons de quoi la personne est morte. Alors voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps est passé. J'ai même un tout petit peu débordé. Mais je voulais vous plutôt que de faire un bilan, je voulais vous sensibiliser à la manière dont nous pouvons concevoir cette approche, à la façon dont nous sommes dépendants, bien sûr, des gestes de fouille, mais ça, c'est notre responsabilité. Nous sommes totalement dépendants des traitements funéraires qui ont été donnés aux défunts, et ça, nous n'y pouvons rien. Nous travaillons sur des populations qui avaient leurs croyances, qui avaient leurs pratiques. Et c'est pour ça, il faut bien avoir conscience du fait qu'il est très difficile de faire des comparaisons de fréquences d'une période à l'autre si les traitements funéraires sont différents. C'est un des gros, gros problèmes de la paléo-épidémiologie, c'est que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas dans des conditions équivalentes de diagnostic ou de calcul de fréquence. Je vous remercie.
C'était Henri Dudet, paléoanthropologiste et spécialiste de l'archéologie funéraire. Il présentait quelques-unes de ses recherches pour illustrer sa discipline. Cette conférence avait lieu en juin 2009 à l'Institut de paléontologie humaine. Restez à l'écoute de nos émissions et téléchargez les conférences de l'Institut de paléontologie humaine en cliquant sur le thème paléontologie préhistoire sur notre site canalacademy.com. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.